jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai envie de demander à mon invité, Aurélien Brault, cofondateur et dirigeant de Little Worker, OFT 120, ce qu'il fait ici.
Qu'est-ce que je fais ici?
À part compter, t'es invité.
C'est une très bonne question. Et effectivement, je pense que Little Worker ne rentre pas complètement dans les cases tech pure et dure. On n'est pas dans un modèle pure SaaS. Donc, effectivement, on est différent et singulier dans le domaine de la tech.
Et pourtant, bien au palmarès FT 120, on va comprendre pourquoi malgré tout. On va essayer de découvrir ensemble pendant une heure et demie, ce qui a fait la réussite de la boîte et ce qui a construit l'homme, un des hommes derrière la boîte, en l'occurrence toi. Je te propose de démarrer par le commencement, à savoir ce que fait Little Worker.
Pitch or mon pitch, pitch or mon pitch.
Little Worker, alors on est une start-up dans l'immobilier et plus concrètement, en fait ce qu'on explique à nos clients, c'est que on va leur trouver leur bien de leur rêve et que globalement, s'il n'existe pas, on va le construire avec eux. Et ce qui arrive dans 99% des cas.
Oui, c'est une promesse a priori qui marche à tous les coups.
qui marche plutôt bien. Et notre but, c'est d'aller faire de la chasse immobilière pour trouver des biens qui correspondent à leurs critères, de le concevoir avec nos équipes en interne, on a des archis, ainsi de suite, et de le rénover jusqu'au bout pour que les personnes puissent habiter dans un lieu qui leur corresponde.
Donc là, on peut avoir une agence immobilière classique qui va chasser le bien. Là, vous les pimpez, je vais le dire comme ça, pour en augmenter la valeur.
Alors, oui et non, parce qu'en fait, une agence immobilière, elle se place tout le temps côté vendeur. Elle représente le vendeur dans son acte de vouloir vendre son appartement, sa maison ou autre. Là, nous, on se place côté acheteur, ce qui est un peu plus rare en France, mais qui est hyper répandu aux États-Unis, où tout le monde a un agent côté acheteur et un agent côté vendeur, et beaucoup moins répandu en France. Mais du coup, là, on se positionne vraiment, on défend les intérêts, nous, de notre acheteur qu'on représente. Donc, on lit des relations avec les agences immobilières, avec pas mal de personnes de l'écosystème, pour avoir des biens en primeur.
Off-market, comme on dit.
Exactement, off-market, et les proposer à nos clients. Après, je pense que toute la valeur ajoutée, elle est dans l'équation de concevoir et rénover pour que ça corresponde pile poil à leurs attentes, à savoir créer une chance supplémentaire, ainsi de suite, au-delà de l'aspect esthétique, on va dire, des choses.
Et quand je te parlais d'augmenter la valeur du bien, tu me dis pas tout à fait. Non, le pas tout à fait, c'était sur la notion d'agent.
Oui, sur la notion d'agent, oui. Après, effectivement, le but, c'est d'augmenter la valeur du bien, que ce soit une valeur affective comme une valeur financière. Mais on va d'abord travailler sur l'expérience client. Je pense que c'est au centre de ce qu'on fait chez Little Worker, parce que on promet pas de mieux poser du carrelage que n'importe qui d'autre. On le fait bien, évidemment. Mais par contre, ce qu'on promet, c'est une expérience complète où les gens, on va pouvoir leur donner tous les outils pour qu'ils arrivent à mener à bien cet acte d'achat et de rénovation, qui est un acte hyper engageant. Je veux dire, c'est souvent le plus gros chèque qu'on fait dans sa vie. C'est des mensualités qui se répètent. Enfin, voilà. Donc, c'est un acte hyper engageant. Donc, on est là pour accompagner, déstresser les gens dans ces étapes.
L'expérience, elle est clé, quel que soit le business. Sur ce business, qu'est-ce qui fait que l'expérience est réussie ou ratée? Et à tous les niveaux Bah, du en premier fait, contact ça, jusqu'à
beaucoup,
la...
Il y a beaucoup de niveaux entre le premier contact, l'explication du mandat, de ce que les gens vont pouvoir emprunter, de ce que les gens vont pouvoir concevoir, rénover, ce qu'on peut faire dans un appartement, jusqu'à la fin du SAV, bien des années après, où on accompagne nos clients jusqu'au bout. Parce que, en fait, c'est
les... Ça ne s'arrête pas au moment où on passe le premier pied dans la porte.
Pas complètement. Après, il y a des garanties, il y a des choses qui s'opèrent sur 1-2 ans, en fonction des choses. Donc oui, ça dure, c'est très long dans le process et on est là à chacune des étapes. Donc c'est en fait pourquoi tu posais la question de qu'est-ce que je fais là. En fait, c'est qu'on a essayé de mettre de la tech là-dedans parce que globalement...
Vous avez plus qu'essayé d'ailleurs.
Oui, on a plus qu'essayé effectivement parce qu'il y avait un gros déficit sur le marché, que ce soit le marché de l'immo ou le marché de la rénovation au sens large dans l'ancien. Le déficit est énorme. Nous, on travaille chez Vinci avant. Je pense qu'on y reviendra après, mais globalement, on s'est inspiré des méthodes qu'on a vues et on a essayé de les reproduire et on a essayé de digitaliser de façon plus conséquente les choses. Et en fait, ça nous a permis de changer un petit peu la façon de voir les choses et que nos équipes se concentrent beaucoup plus sur l'expérience client et se détachent un peu des tâches rébarbatives et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un gros changement.
Où est-ce qu'il y a des lacunes ? Je reprends ce sujet de à chaque moment, ouais, on peut rater cette expérience client. Et ça permet aussi de dresser un peu ce qui se fait aujourd'hui dans le métier, chez les concurrents peut-être.
En fait, on part de tellement loin parce que tu parlais de concurrents. Nous, notre concurrent principal, c'est l'entrepreneur du coin, c'est l'agence immobilière du coin. Je veux dire, c'est eux nos principaux concurrents. Et du coup, en fait, je veux pas faire une généralité parce que tout le monde agit d'une façon différente. Mais effectivement, l'expérience dans le bâtiment, elle est quand même assez complexe puisque les gens, ils sont pas forcément organisés parce que c'est pas leur force première,
ouais,
c'est
ouais.
ça. Et du coup, en fait, ils passent leur journée dans leur camionnette à faire le tour de Leroy Merlin, Point P, ainsi de suite, pour récupérer des matériaux. Ils répondent à leur email le soir quand ils peuvent et faire leur devis. Donc, ils ont des lacunes en communication, ainsi de suite. C'est pas leur point fort. Donc,
et inversement, c'est pas le point fort des acheteurs non plus.
Exactement.
D'où j'imagine un besoin de comprendre, d'accès à l'information et puis de confiance.
De confiance, ouais. De transparence. Nous, on l'a bien vu quand on était chez Vinci, puisque globalement, c'est un peu le début de l'histoire, mais quand on voyait nos amis qui commençaient à acheter des biens, à se poser des questions, à faire des travaux, ils se posaient la question à qui communiquer, comment communiquer. Et de l'autre, nous, on voyait qu'on avait des entrepreneurs en permanence autour de nous, des artisans qui bossaient. Et on savait leur parler. On avait l'habitude de leur parler, de travailler avec eux. Et on voyait bien que globalement, c'était pas forcément le même mode de communication. Donc, qu'il fallait créer quelque chose, en tout cas, entre les deux, pour que les deux arrivent à bien se parler, bien communiquer, à utiliser les mêmes termes, à fonctionner un peu plus de la même façon, en tout cas, ou avoir un traducteur un peu entre les deux.
Sur l'expérience, c'est quoi les petits hacks que vous avez ajoutés pour en faire, pour la sublimer ?
Les petits hacks, franchement, il y en a tellement.
J'aime bien les exemples, j'aime bien projeter, ouais, parce que potentiellement, ce que tu as mis en place chez toi, je peux peut-être le reproduire
bien
en
sûr.
Tant qu'auditeur chez moi, même si je suis pas du tout dans le même métier. Et l'enjeu, c'est de me faire réfléchir.
Ouais, bien sûr. Dans l'expérience client, moi, je pense qu'on a essayé de faire des choses... Et c'est comme ça qu'on a bâti la tech chez nous. C'est des choses hyper concrètes, hyper faciles, mais du coup appliquées à un métier et qui parlent aussi aux artisans, aux entrepreneurs, qui, pour pas tous, mais il y a une partie, c'est le smartphone, c'est plus compliqué. Et du coup, on a dû s'adapter à ces choses-là, plutôt travailler sur de l'envoi d'informations. Donc, très simplement, tu vois, on les indique qu'on achète les matériaux. C'est Little Worker qui achète tous les matériaux pour nos clients. Et du coup, on les informe toutes les semaines par texto des matériaux qui sont arrivés dans nos entrepôts. On fait des petits récaps par mail, ainsi de suite. Mais on essaie de faire des choses plutôt simples, concises. Et ce genre de petites choses aident vachement à fluidifier l'expérience. Et quand je disais client, en fait, on a un peu deux clients, nous. On a l'entrepreneur avec qui on travaille et on essaie de monter en compétences ensemble. Et on a le client final de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je prenais cet exemple. Mais franchement, il y en a plein.
Je vous les voudrais presque tous, mais peut-être qu'on les découvrira au fil des échanges. Tu parlais de tout ce réseau d'entrepreneurs du bâtiment. C'est des externes, c'est quoi la mécanique avec eux? C'est internalisé complètement?
Non, la partie artisan-entrepreneur, elle est complètement externalisée pour le coup. On travaille avec.
C'est ce qui a permis de grandir très vite.
C'est ce qui nous
aussi,
a permis
j'imagine.
De grandir. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas mieux poser le carrelage qu'eux. Donc, globalement, en fait, on essaie de mettre un petit peu chacun dans la position où il est le plus fort. Nous, on est fort, c'est sur de la gestion de projet. Eux, ils sont forts, c'est dans l'exécution des chantiers. Et du coup, on essaie de. Et on a aussi des architectes sur de la conception, on travaille avec des architectes en interne, en externe, et ainsi de suite. Mais du coup, on a voulu que chacun trouve un petit peu sa place dans l'équation et soit le plus fort là où il est vraiment, où il a son expertise.
Et tu fais gagner du temps à tout le monde.
Oui! Oui, c'est clairement le but de faire gagner du temps à tout le monde. Et je pense aussi de que chacun puisse monter en compétence, parce que un entrepreneur avec nous, en fait, il va faire beaucoup plus de chantiers au final, parce que on va le soulager d'une partie, mais aussi on va lui mettre un peu dans les mains nos process qui font qu'il va gagner du temps au final, même sur ses autres projets. Et donc, on accélère le process.
Les premiers pas dans la vie d'une boîte, ils sont essentiels. Quels ont été les premiers pas les plus compliqués?
Les premiers pas les plus compliqués, c'est un peu de passer d'ingénieur dans une grande boîte à entrepreneur, et on se retrouve avec Nicolas tous les deux dans un bureau avec deux stagiaires et on doit repartir. Partir de zéro.
Faut tout créer.
Toutes les erreurs que tu fais quand tu commences la vie d'entrepreneur, mais qui te permettent d'apprendre, de te relever.
Exemple
le plus marquant, je sais pas pourquoi, quand on a la vraie histoire de Little Worker, le vrai démarrage.
Ah bah c'est exactement pour ça qu'on vous fait venir et qu'on prend le temps.
On est parti sur, et d'où le nom Little Worker, en fait on est parti sur les petits travaux, alors que c'était pas notre expertise, et du coup on s'est dit nous on va révolutionner les choses, il y avait pas mal de choses qui commençaient à sortir à ce moment-là sur les tout petits travaux, le fait d'automatiser un maximum ces choses-là, d'industrialiser et tout, et du coup on s'est dit on va créer une plateforme, avant même de vendre un truc, on s'est dit on va créer une plateforme et puis on va faire un truc tout automatique qui va permettre de vendre, de poser des cadres et ainsi de suite, on avait créé un partenariat avec des Yellow Corner et ce genre de choses. Au final, les premières demandes tombent, ça n'a absolument rien à voir. Complètement, tout est hors process. En fait, on s'est dit, mais oui, les gens, ils veulent des travaux plus conséquents. Et en fait, c'est ce qu'on sait faire. Du coup, on a pris toute la plateforme, on a tout foutu à la benne et on est reparti à zéro. Donc, typiquement, ouais, ça, c'est le genre de choses qui marque et aide à apprendre et à se lancer dans la vie d'entrepreneur.
Parce qu'il y avait des gens qui pouvaient solliciter le Little Worker pour poser un clou.
Ouais, presque.
Ouais.
Presque.
Bon, des fois, quand t'as posé un clou, quand c'est pas ton métier, tu te dis, j'aurais mieux fait de passer par quelqu'un, même si ce n'était qu'un clou.
C'est ça. ça nous apprend, puisque globalement, c'était pas
ça. Ça veut dire que ta première plateforme que t'as commencé à développer, elle est morte avant même d'être...
Ouais, avant même d'avoir vendu le premier truc dessus, ouais. Mais bon, nous on venait pas de la tech, on ne connaissait rien avant.
Mais t'es pas le premier à qui ça arrive
Je pense, oui.
Ouais.
Je pense. Donc, mais c'est une. En vrai, moi je le garde tout le temps en expérience et on en parle. Alors, maintenant, on a une version un peu plus édulcorée du début de Little Worker parce que forcément c'est en fonction des échanges. Mais ouais, c'est.
Je fais une aparté. Ce storytelling que n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle boîte a. Comment on décide de raconter ou pas la vraie histoire? Est-ce qu'on attend d'être au FT 120, d'avoir levé 10 millions pour se permettre de pouvoir raconter cette vraie histoire? Parce qu'au début, on a envie de montrer, j'ai envie de comparer ça à Instagram, on ne montre que le meilleur de soi. À quel moment on se permet à montrer les failles?
Ah, c'est une bonne question. Ça dépend auprès de qui, on va dire. Moi, franchement, auprès de nos amis, même des partenaires, on a toujours été transparents sur cette partie-là.
Tout de suite, ouais.
Ouais, parce que, en fait, ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ce que tu crées, de ce que tu apprends, auprès de nos employés aussi. C'est une histoire qu'on a racontée longtemps à tous nos collaborateurs en disant, oui, on s'est planté, oui. Enfin, il faut assumer aussi ses échecs. Je pense que ça, c'est hyper important parce que ça permet de grandir et aussi, ça permet que, tes collaborateurs, tes équipes refassent pas ces mêmes conneries. Mmh. Donc, Nous, on a toujours communiqué dessus assez rapidement. Après, effectivement, de là, on parlait dans les médias, ainsi de suite, tout de suite. Déjà, à l'époque, pas grand monde t'écoute aussi. Donc, donc c'est toujours plus compliqué d'expliquer ces échecs. Et t'es toujours mis un peu plus en lumière après. Donc, c'est plus facile d'en parler un peu plus tard, avec un peu plus de recul aussi sur la situation. Et on en rigole.
Alors, au départ, personne t'écoute. Comment on fait pour être entendu pour la première fois? C'est quoi? Tu sens un instant où il y a l'avant-après? Il n'y a pas eu que la levée de fonds.
Non, voilà. Bien sûr que non. Non, nous, on a une très forte communauté sur les réseaux sociaux. C'est une de nos grosses forces. C'est notre image de marque. Et du coup, ça se construit, en fait.
Que vous animez ou qui est presque animé par tous les utilisateurs?
Non, qu'on anime, ouais. Pour le coup. Ouais, on a une équipe dédiée à ça chez nous qui fait un super travail. Et qui est animé, enfin qui s'auto-anime d'un côté, parce que on parlait de l'expérience client juste avant, enfin c'est qu'on est clairement là-dedans. C'est les personnes qui nous ont fait confiance, qui sont parties avec nous, qui ont fait de la chasse, qui ont fait des travaux avec nous, qui racontent aussi leur histoire, on montre nos réalisations, ce qu'on a fait avec eux, mais c'est une co-construction en permanence. Donc oui, on les associe quand même dans ces images de réseaux sociaux. Après, comment on crée une communauté, ainsi de suite, c'est quand même un travail hyper long. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus facile. Et clairement, c'est un travail de fourmi. Et ça se fait étape par étape. Après, il y a des gens qui arrivent à d'un coup exploser pour grâce à une vidéo, un truc.
Ça n'a pas été votre cas.
Ça n'a pas été notre cas. Après, on a eu quelques vidéos. On avait une interview avec Sophie Ferjani, qui est animatrice sur M6, qui nous a permis de faire un premier, on va dire...
Vu à la télé.
Ouais, une première accélération, en tout cas, sur le truc, sur les réseaux, en tout cas. Après, franchement, c'est du travail, quoi.
Alors ça, je pense que c'est le conseil numéro un, quel que soit le sujet, c'est clairement. Le travail. Un tips, justement, sur l'animation de communauté, sur la création, le développement de cette communauté.
Je pense que... est-ce que j'ai un tips particulier? Franchement, à part le travail dont on parlait juste avant, pas forcément. Après, je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'on veut raconter? Comment on parle
à notre message?
Ouais, c'est ça.
Le message,
parce que
le ton.
C'est le ton, c'est le fond. Les gens, ils s'attardent souvent à l'esthétique. Et franchement, je prends l'exemple de pas mal d'entrepreneurs qui commencent, qui se prennent la tête. Et je me suis pris la tête avec Nicolas sur le logo, sur ce genre de choses. Et en fait, c'est presque anecdotique à côté du message qu'on veut véhiculer, de l'information et de tout ce qu'on crée dans la boîte. Parce qu'en fait, c'est juste un marqueur, mais c'est pas la chose la plus importante. Et du coup, les gens, ils font beaucoup trop attention souvent au visuel, à l'esthétique pure des choses.
À la forme.
Ouais. À la forme plutôt qu'au fond. Et du coup, je pense qu'il faut réfléchir, programmer tout ça, parce que c'est ça, c'est du travail, ça se programme à long terme, c'est pas que du court terme. Savoir à qui on s'adresse, quelle est sa cible, et bien correspondre avec eux, quoi.
C'est intéressant parce que tu peux avoir du fond, et la forme parfois peut faire perdre en crédibilité. Donc, c'est un équilibre subtil à trouver. Et en même temps, avoir que la forme et zéro fond, généralement, on est très vite rattrapé par la patrouille.
Clairement. Et après, sur la forme, on peut être aussi parfois trop audacieux et se prendre les pieds dans le tapis.
C'est arrivé.
Nous, ça nous est pas arrivé, mais ça n'a pas été facile de trouver le bon ton. Et nous, c'était peut-être dans l'autre sens. On était un peu trop sages parfois. Et du coup, il faut arriver à trouver le bon ton pour qui correspond aussi à la marque, complètement.
C'est quoi le ton Little Worker? Tu saurais le décrire?
C'est pas si évident. Ouais. Pour moi, on est sur quelque chose où on essaye de parler à nos clients de façon plutôt esthétique quand même, puisqu'on fait des belles réalisations avec nos clients, mais c'est de bien les armer là-dessus.
Tu parles de photos là ou c'est quoi
Ouais,
un ton esthétique?
Je sais pas. En fait, vu qu'on fait quand même des environnements familiaux, on refait des résidences
principales. Quoi, ouais.
Voilà. Et donc, en fait, les gens, ils ont quand même une image assez esthétique des choses, de se dire, ils vont être garants que globalement, je vais aménager dans quelque chose qui est sympa au goût du jour. Et on aime bien se comparer aussi un peu à Patagonia, typiquement, sur la partie éco-conception, éco-rénovation. Tu ne te diriges pas vers Patagonia spécialement que parce qu'ils font des, ils ont des matériaux, ils ont des choses recyclées, ainsi de suite, mais parce que bah, c'est la marque en tant que telle. Donc on part plutôt dans cet axe-là, et on a fait pas mal d'ateliers autour de la marque avec Nicolas, notre directrice market, ainsi de suite. C'est une question qui est toujours difficile entre être audacieux et ainsi de suite. Enfin, choisir un peu ton combat.
Effectivement, la marque, c'est pas qu'un logo.
Exactement. C'est beaucoup plus complexe que ça.
On va avancer très, très vite vers ce qui a été les nouvelles réalisations au fil de l'eau. Il y a les premiers pas, les premières réussites, les premières victoires. Et même si ça ne fait pas tout, cette levée de fonds de 10 millions. Et justement, on a une question à ce sujet qui t'est proposée par Étienne Portet, le cofondateur de Madines, notre partenaire. Je te propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Bonjour Aurélien. Tu as levé 10 millions d'euros en 2022 et vous avez annoncé à ce moment-là l'embauche de 300 nouveaux collaborateurs en 2 ans. Concrètement, comment on se prépare à l'hypercroissance et à l'accueil d'autant de collaborateurs ?
Question hyper dure. c'est pas si évident que ça, effectivement, parce que intégrer beaucoup de personnes en très peu de temps, ça demande de gros challenges. Alors je corrige un tout petit peu, c'est 300 personnes en 3 ans qu'on avait prévu. Et en fait, on avait déjà un peu anticipé avant la levée de fonds, donc on s'était structuré pour.
Ça demande quoi justement en termes de structuration ?
Je pense que ça demande une équipe RH solide, hyper solide. Avec nous, on aime bien les process chez Little Worker. On a toujours aimé ça, donc on aime bien processer les choses sans que ce soit trop rigide. Hein, je pense que c'est notre déformation ou formation de chez Vinci. Et du coup, je pense qu'il faut structurer et structurer aussi l'esprit de la boîte qui était présent et qu'on voulait surtout pas perdre. Et pour moi, c'est ce qu'on a toujours dit à nos collaborateurs. À chaque fois qu'on a fait des sessions de onboarding, des nouvelles personnes, ainsi de suite, c'est notre point principal. Et en fait, les nouveaux, là, maintenant, c'est les anciens dans 3-6 mois. Et que du coup, eux, bien évidemment, il faut qu'ils s'intègrent, mais qu'ils intègrent aussi tous les nouveaux et qu'ils fassent perdurer nos valeurs, ce qui définit Little Worker. Et ça, globalement, en fait... C'est pas simple. Après... Moi, je pense que globalement, les valeurs, c'est pas juste des choses qu'on pose sur les papiers, sur les verres, sur les choses comme ça. C'est des choses qui correspondent aussi à nos équipes. Et pour moi, avec Nicolas, je pense que et nos premiers managers ainsi de suite, on a recruté des gens qui correspondaient à ces valeurs. Et que du coup, à leur tour, ils recrutent des gens qui correspondent à ces valeurs. Et en fait, le cercle, il est hyper vertueux. Donc, c'est ce qui nous permet, je pense, de pouvoir garder cet esprit-là qui perdure.
Je trouve ça super intéressant, mais du coup, ça me questionne sur comment tu alignes ce que tu pressens ou ce que tu essaies de construire des valeurs de ta boîte, mais il y a ce que tu as envie d'être, ce qui est perçu, et comment tu alignes ça dans l'entretien et donc dans la capacité à observer ces valeurs chez tes futurs collabs.
Hyper dur un entretien de jauger et de prendre un avis sur une personne en si peu de temps. Je veux dire, c'est hyper dur. T'as une idée partielle.
Ouais, puis après, c'est pendant la période d'essai, pendant les premières semaines que tu vas...
Après, je veux dire, on parlait des aspérités. en fait, ça, c'est typiquement une aspérité. Bien évidemment, tout le monde ne colle pas avec notre modèle, tout le monde ne colle pas avec notre façon de voir les choses. Il y a des gens qui malheureusement, n'ont pas leur place chez nous. Mais on est assez transparent là-dessus. Avant-hier, on a accueilli des nouveaux. On leur a redit, en fait... Il y a des gens qui adorent, je vais prendre l'exemple du foot amateur, typiquement il y a des gens, ils adorent jouer le week-end en amateur dans un petit village, faire une soirée le vendredi soir, le samedi soir et un bon barbecue avec les copains juste avant le match.
Et jouer le dimanche matin.
Et il y a des gens, ils veulent jouer en Ligue 1, jouer en Ligue des Champions et ils veulent, et c'est toujours plus dur, c'est un entraînement, c'est de la rigueur, c'est en fait, t'as pas les mêmes soirées. Et nous, on leur dit, bah, effectivement, nous, ce qu'on veut faire chez Italworker, c'est clairement la Ligue 1, la Ligue des Champions, et pas le club amateur. Et les deux se valent. Enfin, je veux dire, j'ai aucun jugement là-dessus. C'est plus que nous, c'est notre choix, c'est ce qu'on a décidé de, sur la, le chemin qu'on veut porter. Et du coup, il faut que les gens, ils embrassent cette façon de voir les choses. Et s'ils l'embrassent, bah, en fait, du coup, qu'on soit bien en ligne et qu'on puisse attaquer la suite ensemble. Parce que, on a plein de belles choses à faire chez Italworker. Et du coup, on veut embarquer des gens ultra motivé là-dedans.
Pour avoir des joueurs de Ligue 1, Ligue des Champions, il faut tout un staff, il faut des coachs, ça s'organise.
Ça s'organise complètement. Ouais. Et la question de comment on fait pour voilà, il y a le recrutement, mais pour moi, après, il y a toute la phase d'après qui est la plus complexe, c'est-à-dire comment on fait monter les gens en compétences, comment on organise. C'est des questions au quotidien de réorganisation, parce qu'en fait, on doit gérer du chaos pour moi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ces phases-là de croissance où la gestion du chaos, elle est pas évidente. Après, je pense qu'on tiendra sûrement pas nos objectifs de recrutement de 300 personnes, parce que la raison finale de ce qu'on veut faire
c'est
chez Italworker, c'est pas ça. Enfin, c'est pas recruter pour recruter. Mais en tout cas, l'intention, et on l'a bien vécu, de forte croissance est assez importante.
J'avais une question de quelqu'un que tu connais bien, que je pensais te poser bien plus tard, mais je pense que c'est le moment. Tu pourrais nous dire qui est Caroline également avant de répondre à sa question.
Vous avez un message.
Bonjour Aurélien, j'ai une question pour toi. Comment arrives-tu à jauger de la bonne distance avec tes équipes au travail ? Je m'explique. Comment arrives-tu à garder une distance adaptée professionnelle et également avoir un côté amical, bienveillant et chaleureux ?
Du coup, c'est ma femme et elle pose cette question parce qu'elle connaît pas mal de collaborateurs.
Ouais.
Non, bah en fait, c'est effectivement, je pense qu'on a, en fait, il faut arriver à jauger les deux choses et que les équipes comprennent que bah il y a un moment donné, on est dans le taf et on est exigeant et globalement, on est là pour travailler, performer. Et d'un autre, après, on peut très bien aller boire des coups et se mettre du côté un peu plus personnel que le côté pur pro. Et du coup, à ce moment-là, être beaucoup plus proche. Et moi, on est, Nicolas comme moi, on est hyper proche de nos premiers collaborateurs et de pas mal d'autres. Après, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment.
C'est pour ça que je faisais le lien avec la question d'avant sur l'hypercroissance.
C'est beaucoup plus compliqué. Franchement, autant jusqu'à 100 personnes, je connaissais le prénom, le nom, les fonctions de tout le monde par cœur. Et là, j'ai beaucoup plus de mal, clairement. C'est plus difficile, en tout cas avec les nouvelles intégrations rapides. Après, surtout ceux qu'on voit pas au quotidien, parce qu'on est quand même dans 8 villes en France. Donc, moi, je suis basé à Bordeaux, donc on les voit pas au quotidien. Donc c'est plus complexe, cette partie-là, et d'arriver à créer une relation un peu de proche. Après, on l'a vu au team building. On a fait un team building en juin de cette année. C'était un moment assez exceptionnel parce que, il y avait, la moitié de la boîte qui connaissait pas l'autre moitié, même plus. Et on a vécu un moment hyper intéressant. Et du coup, ça a permis aussi de rapprocher des équipes entre elles qui se connaissaient pas, entre Paris, Bordeaux, Marseille ou autre, et nous aussi avec nos équipes.
Qu'est-ce qui fait la réussite d'un team building ?
Qu'est-ce qui fait la réussite d'un team building ? Pour moi, nous, on l'a programmé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on n'est jamais rentré dans un truc où il y a du pur travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire des ateliers, des choses comme ça avec les collaborateurs. Le but, c'est de créer du lien. Et à partir de là, bien sûr, c'est le moment de faire aussi un break, une pause, pour se dire, le chemin qu'on a parcouru jusqu'à là, depuis la dernière fois qu'on a échangé, et de remercier aussi les personnes, et de mettre en avant des personnes qui se sont démarquées. Ça, c'est hyper important. Et après, pour moi, c'est vraiment un enjeu de créer du lien entre les gens à travers des activités, mais qui sont pas liées avec le boulot pur et dur. Et bien évidemment, une soirée qui lit toujours.
On va tous planter des clous aujourd'hui. Et tu disais, c'est difficile, passer un certain nombre de collaborateurs, de connaître le prénom, le nom, etc., de tout le monde. C'est difficile parce qu'il y a un volume, mais est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir ce sentiment que t'as plus Est-ce que c'est forcément, inévitablement, un changement de posture ou en tout cas d'état de fait?
Bien sûr. Ouais. Non, franchement, c'est hyper dur. Moi, je suis assez frustré de pas arriver. Alors, j'ai pas une mémoire très bonne visuelle et des prénoms, donc je sais que je suis nul là-dessus de base. Donc, je me suis forcé au début à apprendre ainsi de suite, mais au bout d'un moment, bah en fait, ton cerveau il sature avec l'ensemble des choses. Après, en fait, l'humain est tellement au centre pour moi de l'aventure entrepreneuriale de Little Worker. Que bah oui, je suis frustré quand même de la situation, mais j'essaye d'y remédier en tout cas. Et au fur et à mesure, en fait, quand les gens ils sont là depuis un peu plus longtemps, bah en fait tu les connais, je connais leurs prénoms, je connais ce qu'ils ont fait, j'ai pu échanger avec eux un peu plus de temps. Mais c'est aussi pour ça qu'on a créé des rituels. Typiquement, d'accueillir les nouveaux embauchés, on essaie de le faire tous les mois avec. Alors c'est des parties de nos équipes, de nos managers, mais aussi on a mis en place un open talk où on discute pendant une heure de toutes les questions qu'ils peuvent nous poser de façon anonyme ou pas.
Ça, vous le faites tous les combien de temps?
On le fait tous les mois ou tous les deux mois avec les derniers arrivants, et de temps en temps on refait une repasse d'anciennes cellules ou autres qui sont arrivées un peu plus longtemps avant. Mais voilà, le but c'est d'échanger de façon hyper libre là-dessus.
Qu'est-ce que, en tant que dirigeant, au fil de tous ces échanges, des questions que peuvent poser les nouveaux, t'as appris? On apprend aussi des questions qui peuvent être posées par un nouveau regard. Comme ça, ça peut paraître très naïf parfois, mais il y a des choses de fond à les tirer.
J'essaye de trouver un exemple concret, mais clairement, je veux dire, ça nous arrive régulièrement. En fait, ce qui est assez marrant, mais c'est valable un peu tout le temps dans la vie, je trouve, parce que c'est quand t'échanges avec quelqu'un, parfois, bah, en fait, 95% de la discussion, c'est des choses que tu maîtrises, et parfois, en fait, t'as une question anodine, complètement anodine, et qui te fait un déclic dans ta tête, parce qu'en fait, ça touche un truc que t'avais pas vu, que t'avais pas réfléchi avant.
Et on avait toujours fait ça comme ça, mais en fait.
Mais en fait, c'est une connerie. Et en fait, parfois, que quelqu'un te pose cette question, et que ça te crée, ouais, ce petit déclic, c'est génial.
C'est 10 millions d'euros, et encore une fois, on ne parle pas de chiffres. Ils ne visent pas qu'à recruter. Derrière, il y a des ambitions. Il y a une étoile là, que vous voulez aller atteindre.
Oui. Bah, on a levé pour accélérer. On a lancé, en fait, historiquement, du coup, on était sur le marché de la conception et de la rénovation. Hein, je veux dire, c'est notre métier historique. Et c'est en fait ce qu'on a voulu bâtir en premier. On a un positionnement un peu particulier, c'est qu'on a un statut de contractant général. Je fais une petite aparté, puis je vais revenir sur la suite. Mais c'est important de le comprendre, puisque on a un aspect un peu plus industriel qu'autre chose, parce qu'on est responsable des travaux qu'on fait. On n'est pas une plateforme de mise en relation. Donc, en fait, on est garant. C'est notre assurance décennale qui couvre les travaux, et contractuellement, juridiquement, on est responsable de tout ça. Donc, on a dû créer, au-delà de l'expérience client, on a dû créer toute une machine à produire des chantiers qui sont singuliers à chaque fois. Et ça, c'était un peu notre première, la première chose qu'on voulait construire, et qui nous sert un peu de base pour créer notre nouvelle offre qu'on a fait maintenant il y a 3 ans, c'est plus si nouveau, mais d'immobilier et de chasse immobilière plus particulièrement. Mais on l'aurait jamais construit si on n'avait pas une base saine sur cette conception et cette rénovation. Donc maintenant qu'on a eu ça, on s'est dit maintenant on a testé la partie chasse, on voit que ça marche, et du coup on va accélérer. Oui, on a des grosses ambitions. Il faut savoir que le marché immobilier ancien, dans les villes dans lesquelles on est, dans les grandes agglomérations françaises, c'est un marché qui est
énorme.
Gigantesque.
Ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est des dizaines de milliards. Hein. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Il est hyper segmenté. Il y a quelques gros acteurs qui font pas de la chasse, hein, qui sont plutôt des réseaux d'agences immobilières, Century 21, Stéphane Plaza et ainsi de suite. Nous, on voudrait effectivement beaucoup plus boxer dans ces catégories en termes de volume de biens. On vise d'aller faire sous 2025-2026, globalement, un peu plus de 10 000 biens qui passent dans nos mains par an. Ça commence à devenir des volumes.
Ouais, c'est des vrais volumes.
Des vrais volumes importants. Donc, c'est clairement pour ça qu'on a levé. On a levé pour accélérer sur la partie immobilière et bien sûr sur la partie conception et innovation.
Ça demande quoi? Ça demande de l'avance? C'est vous qui achetez les biens? Enfin, ou c'est tout ce toute cette ressource humaine qu'il va falloir déployer partout sur le territoire pour faire venir les biens et les proposer.
C'est du pur humain. Non, on n'achète pas les biens, c'est vraiment nos clients qui achètent les biens. Là, on est là pour les conseiller. En fait, la partie travaux est beaucoup plus simple sur la partie cash, puisqu'elle est, elle est pas consommatrice de, ou peu consommatrice de cash. La partie IMO, et c'est pour ça qu'on a levé, c'est consommatrice de cash parce que entre le moment où on recrute un commercial, qu'il arrive à vendre son premier bien et qu'on arrive à finir les travaux, en fait, il s'est passé 10 mois. Et globalement, en fait, tu as financé pendant 10 mois un peu tout le monde avant de récolter l'ensemble de ton argent. Donc, c'est là-dessus, en fait, qu'on a cherché à se faire financer.
Parce que du coup, pour prendre un bien, il faut d'abord une demande. C'est la différence avec... une agence qui va avoir un bien, qui va le mettre sur un marché et généralement ça vient, même si en ce moment, et on pourrait y revenir, c'est peut-être plus complexe. Oui. Là, il faut d'abord l'acheteur.
Oui, c'est ça. On va aller chercher l'acheteur. Et après, je dirais que c'est un petit peu plus facile que sur la partie travaux, parce que sur la partie travaux, il faut arriver pile poil au bon moment de la personne qui, dans l'IMO, en fait, tu fais une offre qui est acceptée, après tu signes un compromis devant le notaire généralement ou en agence comme chez nous, et après tu signes ton acte authentique et t'es vraiment propriétaire. Donc il faut arriver entre le compromis et l'acte authentique généralement sur la phase conception travaux pour commencer les travaux au jour
où t'as les clés pour rentrer au plus vite dans le bien.
Sur la phase IMO, en fait, t'arrives un peu plus en amont, t'es plutôt sur aider les gens aussi dans leur réflexion. Ils y réfléchissent souvent pas mal à changer de résidence principale ou à investir dans de l'investissement locatif. Hein, je veux dire, donc c'est un petit peu plus facile de trouver ces clients-là, mais clairement, et dans notre communication, on ne va pas aller chercher du lead pur, on va aller plutôt en amont dans la communication et faire que Little Worker devienne un réflexe au moment où globalement, ils sont un peu plus matures dans leur réflexion.
C'est donc deux métiers. Les leviers d'acquisition sont a priori pas du tout les mêmes. Sur la partie bâtiment, pour arriver au moment entre le compromis et la signature de l'acte, ça peut passer par tout un tas de partenaires, d'agences, etc. Sur la partie identifier l'acheteur, c'est quoi le levier ? Ou les leviers d'ailleurs ?
C'est pas si évident que ça.
C'est pas évident ou tu veux pas dévoiler tes secrets?
Non, mais en fait, c'est l'union de pas mal de petites choses qui font que tu vas chercher des gens à différents moments de leur vie. On essaye aussi de nouer des partenariats en B2B2C avec des gens, avec des auditeurs énergétiques, des choses comme ça, parce que forcément c'est des gens qui vont être dans l'intention d'acheter. Après on communique pas mal sur les réseaux sociaux et
je comprends pas cette histoire d'auditeur énergétique, j'ai besoin de comprendre le chemin parce que je vois ce que c'est, mais l'auditeur il arrive une fois qu'il faut valider un bien, donc c'est presque plutôt côté vendeur.
Oui, t'as raison, c'est côté vendeur. Je suis parti sur le côté vendeur à fond.
Ouais.
Puisque c'est aussi une source d'acquisition de biens pour nous à proposer à nos clients.
Voilà. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi potentiellement, je pensais peut-être même à moi, j'ai un bien à vendre, je peux le mettre sur Little Worker, enfin je peux
on,
vous
on commercialise
le présenter.
Pas l'instant des biens
pour l'instant
si on le fait, on le fera d'une autre façon parce que en fait on travaille en relation de confiance aussi avec les agences immobilières et dont c'est le métier qui nous propose des biens en off market ou autre, donc on veut pas leur piquer leur boulot, c'est pas le but, donc on le fait pas tel quel. En revanche, oui, bien sûr, un client, et c'est régulier, vient vers nous en disant
je vais acheter, mais je vais peut-être vendre aussi à côté.
En fait, c'est ça, exactement. C'est que de toute façon, j'ai mon bien sur lequel je suis, il faut que je le vende pour acheter l'autre. Donc, globalement, oui, on va l'accompagner, on va le mettre en relation avec la bonne agence du quartier qui correspond à son type de bien pour pouvoir le vendre.
En ce moment, il y a une contraction énorme du marché immobilier, une baisse des acheteurs, des sujets autour des taux. Comment vous gérez ça? J'imagine qu'une contraction de votre activité, inévitablement. Enfin, moi, j'ai des potes archi, ils me disent c'est quand même oui. complexe.
Oui, non, mais clairement, je veux dire, personne dans le secteur surperforme. c'est plutôt, il y a une contraction qui est énorme. Les chiffres de la Banque de France sur la production de crédit immobilier, c'est divisé par deux entre le premier semestre de l'année dernière et le premier semestre de cette année. Et le troisième trimestre, tout le monde attend à ce que ça soit encore bien plus bas.
Bien sûr.
Franchement, en toute transparence, nous, on a plutôt bien vécu, parce que ça fait quand même 1 an et demi hein, qu'elle dure la crise et qu'elle a commencé hein, au final immobilière. Et nous, on a plutôt bien vécu jusque, franchement, même le premier semestre, on a tenu nos objectifs. Après la levée de fonds, globalement, on a continué à progresser, à croître.
Là, t'es content d'avoir un peu de cash dans la boîte pour voir venir.
Clairement. Clairement, je pense que la levée de fonds, elle est tombée au bon moment aussi dans le momentum. et oui, le marché, il se contracte et on l'a... Nous, Little Worker, ressenti plutôt sur le T3 de cette année, où on voit bien que on touche plutôt un bas. Est-ce qu'on est sur un plancher ou pas? Franchement, j'en sais rien. Tout le monde met sa bonne prévision, mais franchement, personne n'en sait rien. Après, il y a pas mal de concurrents ou autres qui ont fait des coupes sévères dans les effectifs.
Ouais.
Ils en ont parlé. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est assez officiel, hein, donc mais oui, le secteur il est compliqué et je parle même pas du neuf, hein, parce que alors là c'est
encore autre, c'est un autre sujet. Et encore une fois, vous n'êtes pas qu'à Paris, vous êtes un peu partout en France.
Oui, oui, on est un peu partout en France. Et du coup, le marché répond. C'est marrant parce que c'est vraiment le marché local hein, quand même, où il répond de façon complètement différente et de façon complètement différente sur même des typologies de biens. Typiquement, je prends l'exemple de Bordeaux que je connais plutôt pas mal. Le marché des maisons, on appelle des échoppes à Bordeaux avec un petit jardin en centre-ville. Bah en fait, les prix ils ont pas continué de baisser. Enfin, je veux dire, ils ont continué de monter, même si ça s'est stabilisé. Hein.
Mais t'as quand même moins de transacs.
Il y a moins de transacs. Voilà. Parce que je pense que de toute façon, et on en parlait avec un de nos investisseurs qui a connu quand même plusieurs crises avant, et en fait, on se disait que tant qu'il n'y aura pas une rectification du prix du marché, mais de façon faciale, pas juste dans la négociation à posteriori, le marché il reprendra pas il reprendra pas comme c'était. Après, il reprendra jamais. Enfin, je sais pas.
Ça veut
dire
que
mais...
toutes les personnes qui ont acheté dans les 5 dernières années vont perdre de l'argent.
Pas forcément, parce que en fait c'est comme une action, hein. Tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu d'argent. Non, mais et après on sait pas, le marché de l'immobilier en fait sur le long terme il a fait que monter quoi qu'il arrive, même en comprenant les crises, même en comprenant des rectifications sur les tarifs. Après effectivement, je pense que le marché de l'immobilier dans des plus petites villes, oui, il va être plus compliqué. Parce que, en fait, aussi, il y a des gens qui ont vendu tout et n'importe quoi dans ces villes-là, en vendant des grosses rentas immobilières locatives. Et en fait, je pense que ça va être compliqué pour eux. Mais nous, on intervient quand même dans les grandes villes, c'est ce qu'on connaît le mieux.
Ouais.
Et c'est quand même un marché qui est stable. Non, je suis pas trop inquiet sur cette partie-là.
Dans cette config du moment, c'est plutôt sur de la réno qui a un coup à jouer pour vous?
Oui, bah, forcément, l'État fait la chasse aux passoires énergétiques. Je veux dire, c'est clair et net, et ils ont raison. donc oui, il y a quelque chose à faire sur cette partie rénovation.
Bah justement, je voulais qu'on aborde le sujet. J'ai l'impression, mais avec le pur regard de l'internaute, du citoyen, du consommateur, qu'il y a quand même à boire et à manger. On te propose des solutions sans garantie de passer du F au C ou au B, enfin je sais pas à quel point on peut faire des gaps importants.
Ouais, moi je trouve que toute cette partie là elle est complexe. Et on l'a rendu complexe. Hein. Enfin,
pas vous, Little Worker.
Je veux dire, l'a rendu complexe. Non, nous justement, on essaie de simplifier cette partie-là pour nos clients. Mais effectivement, dans de l'ancien, c'est impossible d'avoir du A ou du B. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Et en fait, il y a des biens où on sait très bien qu'on ne pourra pas. Typiquement, certains biens en rez-de-chaussée, en copropriété ou au dernier étage, c'est impossible de les passer dans des classements, en tout cas avec les règles de calcul actuelles des audits énergétiques, qui pourront passer l'étape de location, donc d'être dans du D ou du C. Donc
la limite à la LOC, c'est du D.
Pour l'instant, c'est F et G qui sont les premiers impactés.
Mais tu sais qu'après, après, c'est eux, quoi qu'il arrive.
Ouais, c'est ça. Et ça va remonter au fur et à mesure. Donc,
jusqu'à un moment, ça va s'arrêter.
On verra bien. Après, je pense que le plus gros effort, il est à faire là, maintenant, sur le E, F, G. Et clairement, la grosse bataille, elle est là-dessus.
Et donc, par contre, on peut passer d'un G à un D ?
Oui. Oui, oui, clairement.
Ouais.
Clairement, et on le fait assez régulièrement. Nous, en moyenne, regardez, on améliore de entre 2,5 et 3 lettres, globalement, les biens qui passent dans nos mains, entre le moment où ils arrivent.
C'est rare de s'engager là-dessus.
On ne s'engage pas dessus. C'est plus okay. Le constat de ce qu'on a vu, de ce qu'on a observé, des biens qui sont passés dans nos mains sur l'année dernière. Après, nous, on travaille, c'est un sujet qui nous passionne et qui passionne les équipes parce que globalement, tout le monde, on a des équipes assez jeunes, hein, la moyenne d'âge, c'est 30 ans, donc qui adorent ce sujet, veulent le traiter.
Cette perte, ce gâchis d'énergie, c'est...
Bah, on a un terrain de jeu énorme chez Little Worker pour avoir un vrai impact au-delà de, d'éteindre la lumière dans les bureaux. Je veux dire, on fait de la rénovation, c'est une des plus grosses sources de pollution en France. Donc, on peut avoir un impact majeur et je pense que ça, c'est important. Donc, on travaille dessus. On a créé un audit dédié Little Worker pour justement indiquer à nos clients, en faisant de façon hyper personnalisée, ben en fait, en fonction de leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour justement qu'ils améliorent leur, que ce soit leur quotidien, leur vie, parce que au final, c'est quand même le bien qui bouge.
Soit
quoi.
Moins chaud, soit plus froid, enfin bref.
Voilà, c'est ça, entre été, hiver, et ainsi de suite. Donc, améliorer le quotidien, améliorer les performances, arrêter de brûler du gaz à profusion pour rien. Après, c'est beaucoup plus complexe. C'est un sujet, franchement, surtout en région parisienne ou même dans des centres-villes historiques. Hein, je veux dire, quand on parle d'Haussmannien et tout, comment tu vas aller isoler par l'extérieur? Et tu parlais tout à l'heure de y a un peu à boire et à manger dans le secteur. Oui, il y a clairement à boire et à manger. Parce que en fait, on a aussi eu une approche de faire de la rénovation par du monolo. Donc on va
c'est
aller.
C'est quoi du monolo?
En gros, on va aller juste installer une pompe à chaleur. On va aller juste mettre un panneau solaire. On va aller juste changer les fenêtres et ainsi de suite. Et en fait, toutes ces choses-là, ça a forcément un impact. Mais globalement, l'impact, il est réel que quand c'est quelque chose de complet, construit.
Et de global, ouais.
Tu vois, je fais un peu l'analogie avec la marque, c'est le message que tu passes derrière. Là, c'est en fait, c'est quelle est l'intention que t'as. Et du coup, l'intention, elle doit être globale pour avoir un effet. Et en fait, un peu comme dans tous les marchés où t'as des subventions assez fortes, y a aussi pas mal de gens qui se mettent sur ce secteur-là et qui, du coup...
Oui, mais on va te subventionner une pompe à chaleur. On va pas te subventionner le fait de passer d'un F à un E.
D'où le problème. Et surtout, quand tu dis ça, on parle d'isolation typiquement, parce que l'isolation, c'est ce qui a le plus gros impact,
bien sûr.
Clairement. Les gens, ils ont souvent la fenêtre en tête ou la chaudière à gaz ou autre. Mais non, en fait, c'est l'isolation qui est un vecteur majeur. Comment tu vas expliquer à quelqu'un qui a payé à Paris 12 000 euros du mètre carré son bien
qu'on va lui péter un mètre ou deux carrés
pour mettre de l'isolation? C'est hyper complexe.
Et donc, ça amène à... la question du lobbying et des politiques publiques. Est-ce qu'on peut imaginer demain, et je ne sais pas à quel point vous essayez d'actionner des leviers là-dessus, par exemple que la ville autorise, quel que soit l'accord ou pas de la copro, de pouvoir isoler par l'extérieur?
Nous, on travaille pas trop pour l'instant avec les politiques. En tout cas, on n'a pas d'action complète en direct avec les politiques. En plus, il y a des politiques d'urbanisme qui sont... c'est de l'hyper local pour le coup. Et je comprends qu'architecturalement, on va pas aller tuer la façade haussmannienne en faisant une isolation par l'extérieur. Je pense que l'ajustement, il va se créer quand même et il va y avoir une prime beaucoup plus forte aux biens rénovés. Et même s'il y a des mètres carrés en moins, au final, le prix au mètre carré de ces biens
sera pas perdu.
Mais que effectivement, ce delta, il s'est pas opéré. Après, on était dans un marché qui était euphorique. Hein. Enfin, je veux dire, c'était n'importe quoi. Des taux d'emprunt à 1%, je veux dire, c'était une euphorie. Je sais pas si on reviendra sur un type de marché comme ça. Donc, forcément, les biens, ils partaient en un quart de seconde. Personne
après,
regardait
parents,
les performances
énergétiques.
Enfin,
je sais pas quel âge t'as, mais nos parents, ils étaient plutôt à 3, 4, 5% facile.
Clairement, mon père, il m'a dit, il avait acheté son entrepôt, il était à 9%. Enfin, je veux dire.
Et à l'époque, les gens achetaient quand même.
Et à l'époque, les gens achetaient. Et nous, on est tous choqués des taux actuels. Et effectivement, parce que la croissance, elle a été hyper brutale. Mmh. Mais je pense que les gens vont commencer à s'habituer. Il va y avoir une rectification des prix aussi qui était incohérente et qui est incohérente avec les taux et qu'il y aura une prime justement assez bien rénovée. Donc je pense que tout ça va commencer à s'opérer et je pense que ça a du bon aussi dans le fond.
En deux mots, qu'est-ce qui vous reste à craquer chez Little Worker ? C'est quoi les prochains murs qu'on
les
pète ?
Les prochains murs qu'on pète. Je pense qu'on a plusieurs choses. On a un premier qui est la productivité. Parce que, bah, en fait, la croissance, c'est très bien. Et, sauf que bah, être productif, être rentable, bah, c'est beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, ça doit aller avec la croissance.
Oui, il paraît que c'est pas mal.
Nous, c'est un sujet qu'on a toujours pris et qu'on a pris en amont, avant même la levée de fonds. Je veux dire, on avait travaillé sur ce modèle de rentabilité et c'était ce qui nous obsédait avant. Maintenant, il faut le remettre dans l'équation avec la croissance et réajuster les choses. Donc, forcément, tu as des phases un peu de palier où tu réajustes. Donc, je pense que ça, c'est un de nos gros enjeux actuel. Et du coup, la tech sert pas mal là-dedans parce que nous, on a développé pas mal d'outils pour nos collaborateurs. Je veux dire, il y a la moitié de l'équipe tech qui travaille que pour des outils pour les collaborateurs. Ouais. Et parce qu'en fait, on fait gagner du temps métier, qu'on a beaucoup de métiers différents, donc on essaie de faire gagner beaucoup de temps sur les différentes thématiques. Donc je pense que ça, c'est un gros enjeu. Après, pour moi, il y a... Je pense atteindre quelle porte on veut en français. En fait, atteindre une taille critique aussi qui nous permet de peser un petit peu plus dans le système et de pouvoir échanger avec des plus gros comptes et d'avoir des échanges un peu plus intéressants avec eux.
Sur votre positionnement, il y a des gros concurrents.
Sur notre positionnement pur, non. c'est ce qui nous avait fait peur à un moment donné, même.
Oui, parce qu'on dit, ceux qui disent qu'il n'y a pas de concurrence, c'est généralement pas bon.
C'est ça.
Ou ils n'ont pas bien regardé.
Après, en fait, et vu qu'on a beaucoup de métiers, en fait, on a plein de concurrents.
Partout,
mais sauf qu'on a, on va dire qu'il n'y a personne qui, de façon industrielle et digitale, fait de la résidence principale de bout en bout de la chaîne. Et ça, non, ça n'existe pas. Après, je disais, il y a l'agence immobilière, il y a des chasseurs, il y a l'entrepreneur. Il y a des concurrents qui font aussi de l'investissement locatif. Il y en a eu beaucoup qui ont fait des grosses levées sur les dernières années. Parce que le taux de crédit était faible. Donc, en fait, c'était beaucoup plus facile de trouver des biens rentables et de vendre des choses. Donc, on a des concurrents sur les différents secteurs, mais nous, on se dit qu'on a des gens qui sont concurrents et aussi partenaires. Et ça, c'est hyper important. Je veux dire, l'entrepreneur, il est concurrent, mais il est aussi partenaire parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on s'est battu sur un dossier qu'en fait, il va pas bosser avec nous l'année d'après et qu'on va pas créer quelque chose de sympa avec lui.
Parce que c'est notre projet!
Eh bien, allons-y.
Moi, président. En fait, j'aimerais bien, en tant que président, que les gens puissent habiter dans un habitat, qu'ils aient une accession à la propriété dans un habitat qui est sain. C'est-à-dire qu'ils puissent accéder à un logement en loc ou à l'achat, mais dans un habitat qui est sain, où il fait pas 99% d'humidité, il fait pas trop chaud et trop froid en hiver. Il n'y a pas des prises électriques qui dépassent de partout. Et je pense que ça, c'est une grosse bataille, une grosse conviction que j'ai, mais que porte aussi toute la boîte. Et je vais prendre un exemple parce que nous, on le fait en interne avec nos collaborateurs. On trouvait que c'était hyper important, cette accession à la propriété. Donc, on a créé 9 collaborateurs de notre offre Little Worker qu'on fait à quasiment rien, pour que justement des personnes qui n'auraient pas acheté un bien, en fait, puissent l'acheter, être guidés dans ces étapes-là, et qu'importe un peu le niveau de salaire, de hiérarchie, ainsi de suite. Et c'est des, je suis hyper content parce qu'il y a des gens, il y en a un, notamment Joey, qui a pris la parole au team building là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas forcément acheté tout seul. Et du coup, je pense que c'est hyper important, et la partie saine, elle est importante, et elle est liée à l'éco-rénovation, à ce dont on discutait juste avant, bien évidemment. Et du coup, j'aime bien cette partie-là. Là, on est en train de finaliser un concours qui s'appelle Bientôt chez moi. fait gagner 40 000 euros à un client pour justement trouver son bien et le rénover. Donc c'est quand même une grosse somme. Et on fait participer aussi une association qu'on va aider, qui s'appelle l'association Lazare, et qui aide justement des jeunes actifs, qui fait des colocations entre jeunes actifs et personnes dans le besoin. Donc en fait, ce sujet du bien, moi je veux le porter, et je veux le porter de façon un peu massive aussi, et pas que dans notre entreprise.
Comment jouer au concours?
C'est trop tard, c'est clôturé, malheureusement.
c'était pour la joke. Plus sérieusement, cette envie que chacun ait les moyens d'accéder à la propriété dans un environnement sain, j'ai espoir de penser que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que le politique, par exemple, doit assumer de prendre en charge tous les frais de rénovation pour passer tous les bâtiments de France, des plus bas jusqu'au plus haut possible? C'est quoi, toi, président, que tu fais, tu mets en place?
Ouais, moi, en tant que président, effectivement, je pense que le politique a un vrai rôle à jouer là-dedans. Et typiquement, moi, j'ai été assez choqué du bouclier tarifaire qui a été fait sur le prix pompe d'essence, ou même du gaz. Hein. Mm-hmm. Le prix du gaz, on subventionne quand même la moitié. L'État subventionne la moitié du prix du gaz. En fait, une fraction de ce montant qu'on utilise en bouclier tarifaire, on s'en servirait pour rénover les logements et subventionner ces rénovations de logements de façon globale et pas juste monolo. En fait, on aura un impact qui serait énorme. Et en fait, on n'aurait pas besoin de subventionner après le pétrole. C'est une vision un peu plus moyen long terme. Mais en fait, je pense qu'il faut placer l'effort de façon conséquente et importante sur ces choses-là. Et le deuxième truc, c'est clairement simplifier les choses. C'est d'une complexité, les CE, ma prime rénov, ainsi de suite. Enfin, il y a énormément de choses dans beaucoup de directions, et qui change en fonction, et ce qui est normal, hein, des revenus des couples, des personnes, et ainsi de suite. Mais c'est trop complexe. Il faut vraiment simplifier et agir de façon massive.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
On va parler de toi, à commencer par l'entrepreneur, l'homme que tu es. Et peut-être on ira tirer le fil de l'enfance, on verra. Mais on a une première question que je te propose d'écouter.
Vous avez un message.
Salut Aurélien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quelqu'un de très calme et très souriant.
Je confirme.
Ce n'est pas l'image qu'on peut avoir d'un entrepreneur du bâtiment qui gère 200 employés. Est-ce que tu pourrais enfin me dire et dévoiler à tout le monde le secret de ce sourire et de ce calme?
Il oubliait les yeux qui pétillent.
Du coup, c'est une question d'Edouard.
Edouard Thomas.
Exactement, qui nous a rejoint en tant qu'investisseur sur ce tour de table et qui en a noué une relation depuis quelques années déjà en amont. Merci, Edouard, pour la question. Après, moi, je pense que je suis aussi un faux calme et faux stressé. C'est-à-dire que d'apparence, je suis posé, mais parfois dans ma tête, c'est en ébullition et que ça montre pas forcément l'arrêté des choses. J'essaie de me servir de... c'est ça, effectivement, d'être calme pour que... Je pense que c'est ma façon de travailler aussi avec mes équipes et de leur montrer que de pas surréagir quand c'est compliqué. Moi, j'aime bien être plutôt posé. Et ce qui fait un peu le yin et le yang avec Nicolas, qui est mon associé, qui a un tempérament différent du mien. Je pense qu'on s'équipe vachement bien là-dessus. Donc c'est top. Et même avec ma femme, qui a un tempérament aussi complètement différent du mien. Ça s'équilibre et ça fait du bien.
Sur cette relation avec ton associé, on le sait, la plupart des ratages, des plantages de boîtes, c'est lié souvent une problématique d'associé. Comment vous construisez la décision? Comment vous construisez la réponse à des désaccords?
En fait, je pense que Déjà, c'est une relation de confiance. Nous, on s'est connus dans le travail à la base, parce qu'on était tous les
chez
deux.
Chez Vinci aussi, ouais.
C'est ça. Ingé travaux sur le même projet. On travaillait pas, on n'avait aucune relation hiérarchique, mais on travaillait sur deux parties différentes. Une grosse salle de concert, un stade à Nanterre. Et du coup, je pense qu'on a construit, déjà, on a appris comment travaillait chacun dans sa zone, comment il travaillait, comment il réagissait. Et ça nous a permis de créer des bases saines aussi pour travailler. Après, globalement, on n'a jamais franchement fait attention à CEO, tout ça. Oui. Je pense que...
Il n'y a pas ce sujet d'ego.
Non, clairement pas. Je pense qu'on travaille tous les deux en confiance, sur un pied d'égalité, et qu'on se challenge. Oui, on n'a pas forcément les mêmes avis tout le temps. Après, on arrive assez vite à trouver des terrains d'entente. Et en fait, je pense que... C'est notre force d'arriver à, sans partir dans des envolées lyriques, à justement trouver le bon chemin, et le bon chemin qui est bon pour la boîte. Et ça a du bon, hein, de se challenger.
Ouais.
Et en fait, parfois, bah oui, on prend une direction, on se plante, et puis en fait, c'est l'autre qui avait raison, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le tout, c'est d'apprendre, de se relever, d'arriver à se remettre en question, chacun, l'un l'autre. On essaie de prendre des petits temps off aussi, tous les deux, de temps en temps, où on sort complètement de la production, des tonnes de mails qu'on reçoit, des Slack ou autres, pour justement se poser de façon un peu plus réfléchie sur des problématiques.
C'est quoi un tof? C'est on part au café du coin, on part à la montagne pendant 3 jours.
Ouais, on aime bien, on part à l'océan généralement, c'est pas très loin de chez nous à Bordeaux, donc on en profite pour prendre une journée, 2 jours, où on essaie de s'isoler, de rentrer dans notre truc et de réfléchir à qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne, et prendre du recul aussi, parce qu'en fait, t'es vite embarqué quand même en tant qu'entrepreneur dans ton quotidien, et c'est hyper dur de prendre une pause. Après, on aime bien aussi, et je pense qu'il y en a pas mal qui font ça, mais on part, on va marcher pendant une demi-heure pour discuter de façon assez classique en semaine, et ça marche plutôt bien.
C'est vraiment ce que tu dis, parce que le mouvement, le fait de marcher, ouais. Ou pour certains d'avoir un horizon vide. Enfin, vide. C'est jamais vraiment vide, mais en tout cas, d'avoir de l'espace au loin. Ça aide à la construction de l'idée, à la discussion, et à sortir de ce... Ouais.
En fait, je trouve que c'est important, c'est vraiment de sortir. Du coup, c'est bien de bouger, parce que ça te permet de t'isoler, de poser ton portable, et d'arrêter d'être rappelé par le quotidien en permanence. Moi, j'aime bien, personnellement, je prends un temps tous les matins et quasiment tous les soirs pour prôner mon chien. Alors, c'est tout con, mais
c'est
en fait...
C'est ton yoga à toi, quoi.
C'est ça, exactement. Et en fait, je passe une demi-heure sans écouteurs, sans portable, et en fait, j'ai mon esprit qui s'évade. Je reconstruis ce que je dois faire dans la journée, ce que j'ai loupé les journées d'avant ou autre. Et pour moi, j'ai besoin de ces moments-là aussi où je m'isole et je fais le point. C'est peut-être pas structuré, mais c'est ma façon à moi, et chacun doit trouver la sienne.
Exactement. T'as d'autres points, ça, c'est souvent des questions qui reviennent avec les entrepreneurs, chacun a sa méthode,
oui.
Pour souffler, pour s'aérer l'esprit, pour se remotiver parfois. Donc t'as cette promenade du chien. Est-ce qu'il y en a d'autres?
C'est mon rituel, on va dire.
Il n'y avait aucun jugement de valeur. Hein,
sais bien. non, mais je veux dire, c'est mon rituel.
Sauf si tu as pris un chien pour pouvoir sortir pendant le confinement, et auquel cas, petit jugement de valeur peut-être.
Non, j'avais pas mon chien en plus à cette époque-là. Oui, effectivement, c'est mon moment à moi. Après, j'aime bien aussi me ressourcer. J'ai un truc que j'aime bien. C'est effectivement partir à l'océan aussi quelques jours où je me coupe. Mmh. Et j'essaie de me forcer à justement couper aussi un petit peu mon téléphone.
Tu le fais vraiment?
Je le fais...
Parce qu'est-ce qu'on décide de faire? Il y a ce qu'on décide de faire, et parfois ce qu'on...
Non, en fait, j'essaie de couper au moins mes mails et Slack. Et après, si j'ai des textos et des WhatsApp qui sont du coup des urgences un peu plus importantes, oui, justement là, je réagis. Après, j'essaie quoi qu'il arrive de prendre des congés. Et je suis plutôt pour que les gens puissent prendre des congés, s'aérer et revenir serein pour la suite. Et ça, je trouve que c'est hyper important. J'ai toujours pris mes congés depuis que j'ai commencé à bosser. parce que c'est un moment où on souffle. Donc, quoi qu'il arrive, on peut vite être tenté de partir dans un tunnel de travail où on s'enlise, et en fait, on voit pas que le burn-out, il peut vite arriver. Ouais. Et deux, trois fois, hein, je l'ai vu, ma femme, elle m'a rappelé à l'ordre en me disant, attention, là, je vois que tu pars, faut que tu souffles un petit peu.
On parle pas assez de la charge mentale et du coup, des fois très proche du burn-out de l'entrepreneur.
À tort, du coup. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une charge mentale qui est continue. Mais après, que certaines personnes gèrent beaucoup mieux que d'autres. Mmh. Après, c'est comme tout. Hein. Quand tout va bien, c'est beaucoup plus facile à gérer. Quand les choses se complexifient, qu'on rentre dans des crises, qu'il y a des décisions difficiles à prendre, oui, il y a de la charge mentale.
Après, c'est dans ces moments-là où il faut arriver à être le plus fort possible. Donc, c'est là où...
Mais après, on n'est pas fort tout seul. Et ça, c'est hyper important. Que ça soit nos proches, que ça soit mon associé, franchement, avec qui on échange hyper régulièrement sur aussi comment on ressent les choses, comment on voit les choses, au-delà de l'action pure et dure, des décisions pures et dures. Mmh. C'est aussi un moment où on se décharge l'un l'autre. Et aussi, parfois, on a des fausses croyances et au final... Nico il dit mais en fait t'es con, c'est tout bête, non, et puis en fait un truc qui tu te faisais un monde, en fait c'est pas si compliqué, et je pense que le point aussi ultra important, c'est les collaborateurs proches, parce qu'en fait c'est sur eux que repose beaucoup de choses, et notamment je pense dans la taille dans
et notamment toi
atteint... Ouais, et parce que maintenant on a atteint une taille où ces personnes là c'est eux qui sont en contact beaucoup plus quotidien que moi avec l'ensemble des collaborateurs, qui véhiculent des messages, qui véhiculent une image, qui véhiculent tout ça. Donc, c'est hyper important d'être bien soutenu et de les soutenir aussi dans l'autre sens.
Alors, justement, ton job maintenant d'entrepreneur, c'est quoi?
Alors, ça, je me pose la question pas tous les jours, mais en fait, il a évolué mille fois. Évolué mille fois depuis qu'on a commencé. Parce qu'en fait, à 10 personnes, à 2 personnes, à 50, 100, enfin, en fait, tu passes des paliers. Et je pense que celui qui m'a mis un peu le plus... parce que je pense que jusqu'à 100, 120 personnes, on arrivait à connaître tout le monde, à connaître, je pense, l'intégralité des métiers, des process et tout ça. À deux, hein, je parle.
Ah ouais.
Là, on a passé une phase où c'est plus compliqué. Et du coup, effectivement, c'est une question que je me pose tout le temps de où est-ce que je dois me positionner?
À quoi doit servir mon temps?
Ouais. Est-ce que je dois être en retrait? Est-ce que je dois mettre les mains dans le cambouis à fond? Est-ce que je dois prendre quelques problématiques à fond? Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'il faut savoir aussi agir en fonction de la vision qu'on a, de ce qu'on veut faire. Et il y a des moments où on doit mettre forcément plus les mains dans le cambouis, mais sans oublier la stratégie, la vision et où on veut aller. Mais je pense qu'il n'y a pas de... C'est compliqué de se dire on lâche tout, on fait que de la strat et on travaille que sur la vision. Enfin, je veux dire, c'est complètement illusoire. Et ce qui fait que tu es déconnecté complètement de la réalité. Moi, j'essaie de prendre du temps parfois, de me poser avec des collaborateurs, d'aller visiter des chantiers pour voir quelle est la réalité des choses aussi que
entre
j'ai oublié.
Ce qu'on a dit, entre ce qu'on a dit, promis.
Entre ce qu'on a imaginé, de ce qu'on est sûr que globalement, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, qu'on a fait une note de service ou j'en sais rien, que c'est clair et net, et en fait qui est pas du tout perçu de la même façon, je sais pas si c'est de la bonne, mais en tout cas pas de la même façon sur le terrain, sur l'exécution. Mais ça, je pense que c'est important d'être les pieds sur terre, connecté avec la réalité, et ça, qu'importe un peu l'étape de la boîte dans laquelle on est. Parce que sinon, en fait, t'es trop dans ta tour d'argent, déconnecté de ce qui se passe.
T'as décidé d'organiser toutes tes journées d'une façon identique, ou tes semaines, ou tu prends en fonction de ce qui arrive?
Ouais, je pense que mes journées...
Parce que des fois, lire certains posts LinkedIn d'entrepreneur, je me dis, mais c'est bluffant, cette organisation militaire, moi, qui m'impressionne pour le coup.
J'aimerais bien, mais ça, j'ai encore un peu du mal avec l'organisation militaire dans mon temps. Non, après, j'essaye de rester quand même flexible, de me donner un cadre avec quelques réunions hebdo sur des sujets où ça nécessite de la récurrence, une structure et un cadre. Après, on essaye de s'acclimater en fonction des besoins et de jouer avec tout ça. Il y a quand même la dimension humaine qui est proéminente et puis qui est tellement variable.
Je tente une question. L'objet de ta dernière réunion?
L'objet de ma dernière réunion. L'objet de ma dernière réunion, c'était hier soir sur un sujet tech pour le coup, d'un nouvel outil qu'on est en train de sortir pour nos chasseurs immobiliers. Et du coup, c'était la structuration et le déploiement et formation de nos collaborateurs sur cet outil.
T'es sur la dernière réunion. Je te propose de filer sur les premières fois. Premier gros doute.
Je pense que je vais reprendre l'expérience dont je parlais tout à l'heure. Premier gros doute, c'est quand on a dû faire notre premier chantier et en fait, t'es mis face au client, c'est à balles réelles et en fait, il y a plein de choses que t'as pas prévues. Donc en fait, tu doutes de ta capacité à y arriver, mais c'est un doute qui est sain. Je pense qui te permet aussi de progresser dans ta façon de construire les choses. Donc je le vois plutôt de façon complètement positive.
Dernier sentiment d'imposture.
Hier. c'est assez marrant, mais de toute façon, c'est un syndrome assez connu chez les entrepreneurs. Je lisais le livre de la personne qui a, j'ai oublié son nom, mais qui a fait Pixar, et qui disait à l'ensemble de ses collaborateurs en permanence, mais c'est normal que vous ayez ce sentiment. Faut pas que ça vous bouffe. En fait, au fur et à mesure, t'arrives à devenir de plus en plus serein dans ton poste. Mais vu que ton poste, il évolue tous les jours,
à chaque fois, tu te demandes.
Tu te reposes des questions. Donc oui, franchement, ce sentiment d'imposture, et on en parle de façon régulière là-dessus, parce que c'est hyper dur, je pense, de pas le ressentir. Ou alors, si tu le ressens pas, c'est aussi parfois... ça peut être négatif, c'est-à-dire que soit tu es dans ta zone de confort, soit en fait, il y a des choses que tu passes à côté, ouais, clairement.
Première belle connerie entrepreneuriale.
C'est de construire quelque chose avant de le vendre, clairement.
Dernière
nuit blanche, je pense que j'en ai... j'ai pas eu des grosses nuits blanches.
T'es trop calme.
Non. Je suis pas trop calme, mais non, on a eu des bons rushs et c'est des choses qui arrivent. Après, de là à une nuit blanche, on va dire que c'était plutôt une soirée qui a fini un petit peu tard, une bamboche de boîte.
C'est des bonnes nuits blanches,
oui,
là. Ouais.
C'est ça.
Premier ego trip, fierté.
Donc, je suis parti tout seul dans mon ego. J'essaie de réfléchir à quelque chose de construit, mais franchement, je pars pas trop là-dedans. J'ai un peu mon syndrome d'imposteur qui me rappelle aussi. Et donc, non, je pars pas trop dans un ego trip. Après, la ligne est toujours fragile et il faut aussi pas arrêter de parler de soi et plutôt parler avec les autres et savoir ce qu'ils ont à dire. Et c'est souvent très intéressant et beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut raconter sans t'en parler.
Après les premières, les dernières fois, on va parler de la plus grande fois, le plus grand défi, avec une question qui t'est posée et que je te propose d'écouter.
Vous avez un message.
Salut Aurèle, j'aurais aimé savoir quel était le plus grand défi que tu avais rencontré en tant qu'entrepreneur et de quelle manière tu l'avais surmonté.
Ce serait pas la voix d'une entrepreneur.
Exactement. C'est Astrid, qui est du coup la femme de Nicolas, mon associé, et avec qui j'ai commencé à bosser aussi chez Vinci, donc que je connais depuis pas mal de temps. Et,
Vinci construit des choses, y compris pas mal d'entrepreneurs.
Exactement. Mon plus gros défi, franchement, je pense que ça a été de passer de mon statut d'ingénieur, où j'aime bien comprendre les mécaniques, j'aime bien construire des choses qui fonctionnent bien, à une posture de vendeur, de sales. Enfin, je veux dire, c'était le plus gros changement, je pense, dans ma tête et le plus compliqué, c'est de me dire qu'en fait, c'est pas parce que tu fais quelque chose dans les temps de qualité qu'en fait, les gens, ils sont contents et que tu arrives à vendre quelque chose. Et
c'est
vraiment,
presque genre normal, quoi.
Ouais. Et franchement... on a été, franchement, une anecdote, mais du coup, on avait deux types de d'ingénieurs travaux qui suivent des projets. Et il y en a un, il vient nous voir et il me dit, mais je comprends pas, j'ai livré mon chantier, j'ai zéro jour de retard, j'ai zéro réserve qualitative sur le projet. Et pourtant, le client, il est pas content. Et l'autre à côté, en fait, il avait deux semaines de retard, je crois. Il avait des choses encore à finaliser ou autre, et le client, il était ravi. Et en fait, ça m'a fait prendre une conscience d'un truc, c'est que l'expérience client, en fait, elle est bâtie sur une relation, sur comment on explique. En fait, il y a souvent des bonnes raisons pour le fait qu'il y ait un décalage, pour le fait qu'il y ait des choses à reprendre et autres. Mais en fait, la façon dont tu l'amènes n'a rien à voir. Et je pense que j'avais pas été confronté à des clients en B2C directement avant. Mmh. Et du coup, en fait, je pense que ça, c'est un gros défi de créer ce changement dans ma tête et que vendre, c'est pas juste avoir la tchatche et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça et qui continuent de penser ça. Et du coup, gros changement de paradigme.
C'est un parallèle qu'on peut faire avec, parce qu'on est tous consommateurs à un moment dans un resto. Oui. Tu peux avoir le même plat, quelqu'un qui te la ramène avec en tirant la tête et l'autre qui te le ramène ça avec un peu de retard, mais avec un grand sourire et des excuses et dadada, et je vous offre un café ou une île flottante, ça fait la diff.
Mais clairement. Et je pense qu'ils ont un amour dans la restauration au sens large de cette expérience client et qui est hyper nette et qui est géniale. Et ça, c'est des choses qui nous manquaient clairement dans le bâtiment, dans l'immobilier. Enfin, je veux dire, donc... Je trouve qu'il faut apprendre aussi de ces gens-là qui performent dans ces sujets.
Je me rends compte qu'il y a une question qui t'a été posée. Je voulais te la poser bien avant. Et en fait, je me suis laissé embarquer dans nos échanges et j'avais la tête dans le guidon. Mais je te propose de l'écouter maintenant.
Vous avez un message.
Hello Aurélien, l'aventure Little Worker a maintenant bientôt 7 ans. Je voulais tout simplement te demander ce que cette aventure a le plus changé en toi.
Merci, il te connaît bien aussi. Ouais. Peut-être pas comme ta femme, mais pas loin.
Ouais, pas loin. Pour le coup, pas loin. Non.
C'est ton associé.
C'est Nicolas, mon associé, effectivement. C'est effectivement, ça fait. On a lancé la boîte en 2016. Je pense que ça a changé tellement de choses dans ma vie. Je pense que ça m'a beaucoup ouvert. Sur comment on voit le business. Même la société un peu plus au sens large et les relations humaines et pas mal de choses en tant que chef d'entreprise que je me posais pas ces questions-là avant, je veux dire, quand j'étais salarié chez Vinci, je me posais beaucoup moins ces questions-là. Et je trouve qu'il y a toute une réflexion autour de comment on crée la culture d'entreprise, comment on arrive à garder cette culture d'entreprise, on en parlait juste avant, comment on arrive à recruter les bonnes personnes qui correspondent à tes valeurs, à toi, et sans dénaturer. Comment rester authentique aussi, parce que moi, je prône ça, de pas être fake et d'arrêter de faire des vernis, une vie Instagram, et ainsi de suite. Moi, franchement, c'est pas mon truc. Je préfère être assez franc et direct avec les gens. Donc, je pense que ça m'a ouvert un petit peu tout ça, de pas tomber dans du pur politiquement correct tout le temps auprès de l'ensemble des collaborateurs, des partenaires et autres, et d'être assez sincère. Et je pense que ça aide beaucoup. Et moi, ça m'aide beaucoup. Donc, à m'ouvrir là-dessus. Et je pense que ça me permet aussi de l'aventure Little Worker. Mais enfin, c'est une aventure assez folle, hein, pour moi, clairement. Je pense qu'avec Nicolas, quand on a commencé, ou avant qu'on parte, on s'est dit, de chez Vinci, on s'est dit, mais oui, c'est ce on imagine faire quelque chose comme ça avec autant de personnes. Mais en fait, quand on a commencé à le réaliser, on s'est dit, waouh, en fait, c'est réel. on est dedans. Et en fait, et je pense que moi, ce qui m'intéresse pour même la suite, c'est continuer à kiffer ce que je fais, quoi. Enfin, je veux dire, à me lever tous les matins avec la banane en me disant, en fait, une nouvelle journée. Alors après, franchement, c'est comme tout le monde, hein, y a des hauts, des bas, tu finis des semaines, t'es sur les rotules et tu dis, waouh, c'était une semaine ultra complexe, on va reprendre lundi, ça va être chaud. Et puis, tu fais un petit peu un reset le week-end et tu repars à fond. Et ça, c'est génial. Tes interactions humaines, c'est génial.
Tu le disais, l'authenticité. Tu me l'as promis, mais tu me l'as aussi déjà prouvé, mais je te propose de continuer.
Wow.
La petite claque qui fait un peu mal, qui fait peut-être pas de mal.
Ouais, qui a fait mal quand même. C'était en 2019, ma claque, je pense, ma plus grosse claque. Premier semestre, on est... donc la boîte, on a créé en 2016, donc ça faisait déjà... entre deux bonnes années d'exécution, de vraie exécution, on commence à avoir des chiffres qui commencent à porter leurs fruits. On a compris le système sales dont je parlais juste avant, la mécanique. Enfin, tout le monde, on a une première ébauche. Et là, on se dit, on fait un super premier semestre. Et en vrai, tous les critères étaient bons. Les clients contents, on arrivait à bien vendre, les sales surperformaient. Enfin, vraiment, tout roule. Là, on se dit, bon, on part en congé d'été.
Le début de l'histoire ne commence pas comme une claque, mais c'est un peu de contexte.
Ouais, et on part en congé d'été en se disant, c'est bon, franchement, on a trouvé la martingale, on va prendre du recul. Maintenant, on a créé une usine, ça va dérouler. On va réfléchir à la stratégie au long terme, on va essayer de construire un peu plus de choses avec Nico. Et là, septembre, claque, parce qu'en fait, les résultats, ils sont plus là. La satisfaction, elle s'érode. Commercialement, on a beaucoup plus de mal à vendre. Et en fait, septembre, octobre, ça a continué. Mais du coup, on s'est pris une grosse claque parce qu'on s'est dit, bah, en fait, ouais, il n'y a rien d'acquis. D'un autre côté, ça nous a permis de vraiment beaucoup apprendre, puisque on s'est posé les questions et on s'est remis en question sur l'ensemble des choses. Et en fait, on a plus progressé dans ce mois que dans le premier semestre au final. Et ça nous a permis de construire des choses pour la suite, pour l'année d'après, pour 2020 ou autre. Et du coup, je suis très content de m'être pris cette grosse claque.
Ça sert toujours les claques. Il y a ce qui ne dépend pas de toi, contraction de marché, X et Y. Et il y a ce sur quoi tu as la main et dans ces deux mois, t'expliques aussi par peut-être on se repose un peu sur nos lauriers, on met moins d'actions en place parce qu'on pense avoir saisi cette fameuse martingale. Tu le vois aussi comme ça?
Oui.
Ça marche, donc bon.
En fait, je pense que.
On lève le pied, quoi.
Ouais, clairement, on lève le pied. Et nous, on est moins exigeants envers nos collaborateurs, et ils sont moins exigeants envers eux-mêmes. Et en fait, c'est un cercle infernal. et clairement, c'est ce cercle-là qu'il faut casser. Et en fait,
alors justement, comment on le casse, pardon?
Ouais, bien
t'as,
sûr.
T'as perdu la motive, l'exigence, etc.
En fait, quand ça se passe bien, tu fais moins attention aux détails. Et en fait, c'est dans les détails que tout se joue. Généralement, il n'y a pas de solution miracle pour exploser ta satisfaction client, exploser tes ventes. Et en fait, c'est tous ces petits trucs bout à bout, cette exigence dans les détails qui fait que ça marche.
Mais du coup, à ce moment-là, comment tu remets tout le monde on board sur « attention, là, il faut rechanger tous de mindset, nous compris ».
Bah, je pense qu'on a été, ça a été un peu brutal peut-être pour certains, parce que du coup effectivement on a switché complètement un peu de
façon posture, de posture,
de façon
discours,
de fonctionner, ouais. De discours, sur les réunions, bah en fait non, t'arrives pas à 9h01, c'est 9h, c'est 00 quoi. Et puis en fait on fait un compte rendu et puis on le fait tout de suite. Et enfin en fait c'est tous ces petits gestes du quotidien. Et en fait si t'arrives à les corriger, bah en fait, ça a des effets et ça se propage, quoi, je veux dire. Donc, pour moi, on a été, oui, effectivement, plus dur à ce moment-là. Et je pense qu'on a été plus dur aussi envers nous-mêmes.
Ça va m'amener à notre rubrique d'après. On a un peu reformaté avec toi à 2 minutes du lancement des cams, des micros. Je te propose de passer à ta carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Pour nos milliers d'auditeurs qui ne le savent pas, il y a quelques temps, c'est vrai qu'on n'a pas aussi tant que ça communiqué, on a lancé une newsletter, Les Nouveaux Narrateurs, pour reporter vos discours et dans laquelle on donne la plume, un édito, à un entrepreneur autour d'un mot, autour de cette promesse, qu'est-ce que leur singularité a à nous dire de l'universel. Donc j'invite évidemment tous nos auditeurs à aller s'inscrire s'ils ne le sont pas. C'est évidemment qu'ils ne le sont pas tous, on a 2500 personnes qui nous suivent, entrepreneurs, investisseurs, des super taux d'ouverture, donc si vous inscrivez c'est pour les lire, sinon laissez-nous comme ça, on est très fiers des taux. Plus sérieusement, je t'ai livré une dizaine de mots, 2 minutes de lancer l'enregistrement et t'en as choisi un, t'as choisi l'excellence.
Oui.
Donc ce sera pas une plume, un édito, pensé, rédigé à la virgule près. Mais du coup, tu avais envie de parler de ce sujet.
Oui, je pense que c'est un... Enfin, pour moi, c'est un sujet hyper important. L'exigence, c'est lié à l'excellence. Et du coup, bah, c'était le sujet un petit peu d'avant.
Oui,
et du coup,
ça m'aide parfaitement là-dedans.
C'est que pour y arriver, je pense qu'il faut savoir être exigeant dans sa vie. Et pour atteindre l'excellence, bah, en fait, après, je pense qu'il faut faire attention parce que l'excellence, ça peut avoir des gros défauts. Il ne faut pas vouloir faire trop bien les choses non plus, il faut savoir faire du 80-20, mais moi je porte une conviction que et du coup qui était un peu véhiculée d'une autre façon, je pense il y a quelques années sur le milieu start-up qui était un milieu plutôt cool, où ça se passe bien, on joue au baby-foot, tout le monde est hyper bienveillant et ça veut pas dire qu'on n'est pas bienveillant chez Little Worker, attention hein. Mais qui faussait un peu la réalité des entreprises, la réalité de ce que vivent la plupart des PME et des boîtes, et où en fait bah oui, il faut être exigeant envers soi-même, il faut être exigeant envers les gens si on veut progresser, et que ça, c'est un travail du quotidien, du fond, de l'ensemble des collaborateurs, qu'il ne faut rien lâcher. Je suis assez persuadé que globalement, on va tirer et on tire vers l'excellence dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire bosser 48 heures par jour. Enfin, je veux dire, c'est juste de
d'ailleurs,
bien faire les choses.
Mathématiquement, parce qu'on me dit dans l'oreillette que mathématiquement, c'est impossible. Ah, sinon, je l'aurais pas deviné moi-même. Non, mais j'entends, mais je veux bien que tu développes justement.
C'est-à-dire que l'exigence, c'est pas travailler un maximum d'heures. Bah, en fait, c'est juste de bien faire les choses dès le départ, de pas laisser passer des petits détails. Je prenais l'exemple, mais c'est des exemples tout bêtes, mais effectivement, tu commences ta réunion à 9h05 au lieu de 9h, bah, en fait, t'as 2, 5, 10 personnes qui ont attendu pendant 5 minutes que, en fait, il y ait tout le monde pour pouvoir commencer. Donc, en fait, tu perds du temps, et ce temps-là, t'aurais pu le mettre à faire complètement autre chose.
Ouais.
Donc, en fait, tu peux aussi gagner pas mal de temps dans ces moments-là, d'être organisé, et je le disais tout à l'heure, mais on adore les process. c'est notre côté ingé, clairement, là, qui ressort. Mais ce côté process, bah, ça permet de donner aussi un cadre dans lequel les gens, ils peuvent s'épanouir. Mmh. Et sans cadre, et même dans la créativité, hein, on peut avoir un cadre. Hein,
Il
en faut, parce que, en fait, sinon, tu pars dans tous les sens. Donc, moi, je suis pour donner un cadre, être exigeant, et ça permet de tirer vers l'excellence. Et avoir une aventure qui est singulière, quoi.
T'as d'autres exemples comme ça que les 5 minutes de retard à une réunion? Parce que comme tu l'as dit, c'est dans des tout petits détails que beaucoup peut se jouer.
Prends un exemple classique du bâtiment. Et franchement, c'est le truc qui arrive tout le temps. Mais en fait, tu poses un du carrelage, du parquet, et puis en fait, tu te plantes sur deux trucs, et puis tu te dis, oh, c'est pas grave, ça se verra pas, c'est rien. Et puis en fait, tu laisses passer. La personne, elle voit ça, elle laisse passer, elle se dit, bon, tant pis, on verra plus tard, peut-être que personne verra. Puis en fait, ça te retombe dessus.
À la toute fin.
Mais à la toute fin, puissance 1000. En fait, tu perds la satisfaction de ton client, tu perds l'expérience, tu perds de l'argent. Parce qu'en fait, il faut aller refaire les travaux. Donc en fait, c'est des petits détails.
Vaut mieux prendre peut-être l'heure de plus, ouais, le jour J pour refaire.
Mais clairement, il faut bien faire les choses du premier coup. Et ça, c'est assez important. On a le droit de se tromper. Franchement, tout le monde se trompe tout le temps. Déjà, il faut apprendre de ses erreurs et pas leur faire la seconde fois. Mais en fait, quand tu fais mieux du premier coup, ben en fait, tu gagnes du temps. Et souvent, je pense que c'est un défaut que les gens ont de se dire, de laisser passer des petits trucs comme ça du quotidien. La petite, poignée qui n'est pas serrée, c'est pas grave. Tu fermes les yeux et en fait, il ne faut pas fermer les yeux. Il faut pas fermer les yeux sur ces choses-là, parce que en fait, c'est peut-être des petites choses, mais en fait, mis bout à bout, ça a des conséquences qui peuvent être beaucoup plus importantes.
Super conclusion de rubrique. Je te propose de conclure par notre rubrique Sista. Tu as déjà choisi ta Sista. Je crois même, si je dis pas de bêtises, qu'on l'a entendu.
Ah non, c'est pas la même Astrid. Ah. Non, c'est pas la même personne, mais non.
Astrid Parmentier, effectivement.
Exactement.
Tom et Josette.
Tom et Josette, j'ai voulu les mettre en avant parce que je trouve qu'ils font un travail génial, Astrid et Pauline, à travers Tom et Josette, qui est un réseau qu'elles ont créé de micro-crèches dans des EHPAD, et qui du coup résolvent quand même deux gros problèmes. D'un côté, les personnes âgées et l'isolement de ces personnes-là, et de l'autre un manque certain de place en crèche. Donc je trouve que la réunion des deux mondes est assez incroyable, qu'elles l'exécutent de la très bonne façon. Elles ont levé des fonds cette année aussi, donc ça prouve aussi qu'elles savent bien exécuter, parce que lever des fonds en 2023, on sait tous que ça a été beaucoup plus compliqué, et que du coup c'est dire que t'es solide. Donc je trouve que enfin un truc top.
Et sur d'un côté comme de l'autre, il y a 10 000 questions, moi, je pense qu'on va avoir envie de lui poser. En l'occurrence, ce sera notre associé Solène qui lui posera pas qu'en ton nom, mais notamment une question qu'on va extraire de notre échange et que je te propose de lui poser en direct, et donc de t'adresser à Astrid. Tu peux la challenger un peu sur le pro, le perso. On t'a posé des questions. À ton tour.
Astrid, maintenant que t'as levé, que t'as montré que tu savais faire, c'est quoi le plus gros challenge que tu vas avoir chez Tom et Josette pour pouvoir développer ton réseau, et pas qu'en France? De ce que j'ai compris, tu voulais attaquer de façon un peu plus européenne ou internationale. C'est quoi le plus gros challenge pour toi pour développer la boîte? Je sais qu'il y a des choses sur l'industrialisation un peu et le déploiement qui est plus compliqué. T'es pas juste un SaaS non plus, donc c'est quoi ton plus gros challenge?
Eh ben, on va lui poser en ton nom. Merci pour cette mise en avant. On a hâte de la retrouver. Il y a aussi quelque chose qu'on a lancé seulement depuis quelques jours. Je te propose de devenir l'égérie de Little Worker, et en l'occurrence de toi, Aurélien, et de poster un ou plusieurs messages pour défendre une cause que vous avez envie de défendre. Tu nous parlais notamment de la rénovation énergétique, etc. Donc je sais pas si on partira là-dessus, mais si tu le souhaites, je peux mettre mon costume d'homme sandwich sur LinkedIn pour porter avec vous plus largement un de vos sujets.
Avec grand plaisir. Pour le coup, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, des sujets qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on peut échanger là-dessus.
Eh ben, on en reparle juste après.
Super.
C'est un immense plaisir de t'avoir, de découvrir un peu plus en profondeur Little Worker. Je te dis à très bientôt.
À bientôt, merci.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.